Donc je vais vraiment une très très rapide synthèse sur ce qu'on a vu la dernière fois, sans rentrer dans toutes les subtilités. En très gros, la Mishnah, Azav, Konet, Akesef, etc., débat de savoir quand on fait de l'échange de monnaie, qu'est-ce qui est monnaie et qu'est-ce qui est commodity. Qu'est-ce qui est l'objet qui est acheté et qu'est-ce qui est la monnaie qui s'est rachetée. Et le grand débat de ce début de Pérec, c'est savoir entre les monnaies d'or et les monnaies d'argent, qu'est-ce qui est monnaie et qu'est-ce qui est commodity. Et il y a un grand débat, c'est-à-dire que nous, notre version de la Mishnah, elle dit que Zav connaît à Kesef, c'est-à-dire que c'est le fait de prendre possession de l'or qui fait que ça crée une obligation vis-à-vis de l'argent, donc okay. C'est l'argent qui est monnaie, c'est comme ça que fonctionne une transaction, rapidement, c'est quand on prend la commodity que ça crée une obligation monétaire dans l'échange.
C'est pas la notion de commodity en fait, c'est pas le terme. Enfin,
un bien ou un produit ou...
Ouais, en fait, c'est l'objet a une valeur, c'est pas une valeur, on va dire, de convention pour transférer...
C'est vraiment quand à la base, une transaction commerciale, c'est quoi ? C'est je vais dans un magasin, je donne de l'argent pour acheter un objet. Ouais. D'accord ? Et l'objet, mais à qui ? Au sens où c'est moi qui subis les pertes et profits dessus, etc. Que quand j'ai pris l'objet, pas quand juste j'ai versé l'argent. Quand j'ai versé l'argent et qu'il arrive quelque chose à l'objet, le commerçant est obligé de me donner un autre objet, de me rendre mon argent. Comment ça se passe quand on échange les deux ? Donc il y a un débat, en fait, de savoir si finalement la vraie version. Chez Rabbi, en tout cas, l'auteur de la Mishnah, c'est comme il l'enseigne ici, c'est-à-dire que c'est l'argent qui est monnaie vis-à-vis de... alors que l'or, c'est le bien qui est acheté. Ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est l'or qui est acheté ? C'est l'or qui est la monnaie, c'est l'argent qui est acheté quand on échange or pour l'argent. Et la Gemara analyse ça en disant, finalement, les deux critères qui rentrent en jeu, c'est d'un côté le caractère précieux, qui fait qu'une monnaie est une monnaie. C'est un des critères essentiels, c'est la préciosité. Et à ce moment-là, c'est l'or qui devient monnaie par rapport à l'argent. Ou est-ce que c'est le fait de pouvoir circuler facilement ? Et à ce moment-là, c'est l'argent qui l'emporte par rapport à l'or. Je ne rentre pas dans le débat, c'est enregistré tout ça, donc tu peux l'écouter.
Mais pourquoi, si ce serait plus précieux, ça serait plus une monnaie ?
Parce que on pourrait poser la question fondamentalement. La Gemara a l'air d'admettre, comme un fait, qu'on ne fait des monnaies, proprement parler, qu'avec des métaux précieux ou semi-précieux, au sens où nachinami, c'est-à-dire tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire de la monnaie à partir de n'importe quoi, mais quand il s'agit d'échange de monnaie, le critère de la préciosité rentre en jeu pour établir une hiérarchie entre les monnaies.
D'accord.
Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus que ça, mais c'est vrai que la dernière fois, on a fait comme ça une analyse des différents critères de ce qui fait qu'une monnaie est une monnaie. Le caractère précieux, le fait que ça circule, le fait que ça ait une forme de monnaie, et que ce ne soit pas juste du matériau brut, ou des choses qui prennent une autre forme que de la monnaie, comme, je ne sais pas, un tableau précieux, je ne sais pas. Le fait qu'il y ait une décision politique, c'est-à-dire qu'il y a un État qui décrète que ça, c'est une monnaie, le fait que c'est accepté par la société, que ça fonctionne en tant que monnaie. Et la Mishnah, elle analysait les variations de ces différents critères. Maintenant, on prolonge ce débat sur or ou argent. Et ça commence, donc on en était. Ve'af Rabbi Chiya Savar Davar Tivarde. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13e ligne. À partir du début, Daf Mem Dalet Moudbet. Tu es ?
Ouais.
Ok. Donc.
Ouais.
Maintenant qu'on a établi le débat de savoir est-ce que Rabbi. Finalement, l'opinion définitive de Rabbi, l'auteur de la Mishnah, c'est l'argent est monnaie ou l'or est monnaie. On essaie de rapporter une preuve à partir d'un enseignement de Rabbi Chiya, qui est l'élève de Rabbi. Stamas, qu'est-ce qu'il a reçu de Rabbi ?
Ouais.
Donc, On veut dire, Rabbi Ria, lui aussi, il pense que c'est l'or qui est monnaie par rapport à l'argent. Quoi, hein? Des Rav, Osif, Dinare, mi Barté de Rabbi Ria. Rav, donc, l'élève de Rabbi Ria, qui est donc à la charnière entre... Les deux sont à la charnière entre l'époque des Tanaïm et des Amoraïm. Rabbi Ria, c'est vraiment le dernier Tana, c'est l'auteur de la Tosefta, c'est le Talmid de Rabbi, l'auteur de Mishnah. Et Rav, c'est le premier Amora en tant que tel, mais il a souvent un statut de Tana aussi. On dit Rav Tana ou Palig, c'est-à-dire Rav peut intervenir dans une discussion entre Tanaïm. Bon, ça, c'est, de toute façon, ce n'est pas le sujet essentiel ici. Donc on nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Rav a emprunté des dinars, sous-entendu d'or, ouais, à la fille de Rabbi Ria. Les sauf, il y a court dinaré. Et quand, par la suite, le dinar d'or a vu son cours monter. Atta les kamé de Rabbi Ria. Donc Rav est allé voir Rabbi Ria, Amarlé, et Rabbi Ria, pour lui dire, qu'est-ce que je fais? Amarlé, donc Rabbi Ria lui a dit à Rav, Zil Shalimla, Tavin Vetakilin. Rabbi Ria lui a dit, paye-la, sous-entendu en dinar d'or, bon et pesant. Sonnant et trébuchant, on dirait aujourd'hui. À peu près exactement ça, en fait. Venez, venez, on a commencé un peu sans vous, mais...
Oui, mais on est en retard. Ouais, c'est bon.
Regarde si tu dois avoir une Maseret Bava Metzia dans les... Sur le côté.
Salut, Guillermo.
Toi, tu fais...
Oui, alors, allez. Allez,
fais voir. Maseret Bava Metzia.
Là-bas, je pense.
Ah, ah.
Là, vous n'avez pas fini, déjà, vous n'avez pas fini le cours, quand même.
Donc, Rabbi Ria, je répète, Rav a emprunté des dinars d'or à la fille de Rabbi Ria. Et ensuite, le cours du dinar d'or a augmenté. Et Rav ne savait pas comment il pouvait faire pour rembourser la fille de Rabbi Ria. Et Rabbi Ria lui a dit... Ne fais pas d'histoire, il n'y a aucun problème. Tu la rembourses en dinars d'or sonnant et trébuchant. Et Amart, maintenant on a lu ça. Et Amart, Bishlama, Davat, Ivarve, Shapir. Si tu me dis qu'effectivement le dinar d'or a valeur de monnaie, alors il n'y a aucun problème. Il vient emprunter, il a contracté un prêt dans une monnaie qui est le dinar d'or, et il la rembourse en dinar d'or. Et là, Iamart Perahave, mais si tu me dis que le dinar d'or est non pas une monnaie, mais un bien, pour l'instant, juste je fais vraiment une lecture très très linéaire et ensuite on soulèvera les problèmes annexes qui nous serviront par la suite. Havale CABCA, Vassour. Alors, on rentre dans un problème sur lequel je vais revenir, sur lequel Rashi va revenir. Qu'on n'a pas droit de contracter un prêt dont le montant est exprimé en bien et non pas en monnaie.
Excusez-moi, c'est quelle page?
Même Dalet Amoudbet. Et ça, c'est interdit, des Ravanan. Et on répond, Rav, Dinare Ravoulé. Non, c'est pas un problème. Tu peux maintenir que le dinar d'or a le statut de bien et pas de monnaie, et que pour autant on rentre pas dans un interdit ici de ribit, d'accord, de prêt intérêt, parce que il avait chez lui ou à disposition d'une certaine manière des dinars d'or. Et Kevan déhavoulé dinaré, et comme il avait donc des dinars d'or, n'a assez que Omer là, c'est comme s'il lui avait dit, halveni, acheyavo beni, Oh, Hachem Sao Mafter, prête-moi du blé le temps que mon fils arrive, parce que c'est lui qui a les clés de ma réserve, ou jusqu'à ce que je trouve ma clé. Okay. Alors bon, là, c'est des choses qui vous paraissent un peu obscures parce qu'on n'a pas fait les Ebonnets chers, mais Rashi va nous éclairer et je vais rentrer des mots dans Rashi supplémentaire pour comprendre de quoi ça parle. Okay. Alors on fait Rashi. Donc, Osif Dinare, Lava Zehuvim, d'accord, il a emprunté des dinars d'or. Ata le Kamedar Bichria, il a été posé une question à Rabbi Chia.
Excusez-moi, oui, je ne sais pas où vous êtes.
Là, je suis dans Rashi maintenant.
Oui, mais c'est à droite, à gauche.
Rashi, c'est toujours dans la marge intérieure.
Là.
Voilà. Ouais. En face, ce sera de l'autre côté.
Ouais. Okay. C'est lequel point
Alors okay. Ici, Ata le Kamedar Bichria, vous voyez, c'est chez Rashi 4. 1, 2, 3.
Matmutin, Gmara. Matmutin, Gmara.
Il n'y a pas Matmutin, Gmara, vous n'êtes pas sur la bonne page.
Bah là, c'est 88, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Non, mais vous êtes sur Tosfot là.
Non, c'est pas d'être dans Baba Kama en fait. Non, il y a deux. Il y a Ban, non? Ah,
ça, donc 88 alors.
Non, excusez-moi, c'est dans Baba Kama en fait.
Il y a Baba Kama dans le même volume, tu vois?
Ouais, ouais.
Ok. Voilà.
C'est la réflexion qui est. C'est
pas très bien de d'accord, donc dans Rashi, on est sur 3 sixième ligne, sixième petite ligne. Donc pourquoi il est allé voir Rabbi Chia ? Hoshesh haya mishum ribit. Il avait peur que s'il remboursait la somme qu'il avait empruntée au même montant nominal de dinar d'or, ça constituerait une infraction à l'interdit de prêter ou d'emprunter à intérêt.
C'est il a fouqué qu'il aurait été dégoûté de payer plus, quoi. Ça.
Oui, 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 non, le problème, c'est que lui, il s'en fiche, il a emprunté des dinars d'or, il rembourse son dinar d'or, c'était l'accord à la base, tu vois. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que c'est un problème, est-ce qu'on rentre pas dans un cas de ribit ? Il n'a rien à dire, si ça, c'est. Iamar, Bishlama, Dava, Tivave. Donc, si tu dis que Rabbi Chia, il lui dit, il n'y a aucun problème. Okay. Ça marche bien si tu me dis que c'est l'or qui est la monnaie de référence. Ven ayukar veazol talui bahen. Et donc que c'est pas littéralement l'appréciation et la dépréciation ne dépendent pas du dinar d'or. En termes français, que ce n'est pas le cours du dinar d'or qui varie. Et là, hazol talui bemaot. Des morts à Kesefhen, chez Huzlou. Les Hénaten Arbe et Bedinar. En fait, ce sont les pièces d'argent qui ont varié. D'accord ? Parce que quand on dit que le cours du dinar d'or a varié, il a varié par rapport à quelque chose d'autre.
D'accord ? C'est la valeur, c'est ça ? C'est la valeur qu'il représente.
Alors voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que le dinar d'or a varié ? C'est-à-dire, il a. Une monnaie ou n'importe quoi, ça varie pas dans l'absolu. Ça varie par rapport à une valeur de référence. Donc, quand on dit oui, le dinar d'or a augmenté, c'est que, en fait, aujourd'hui, le dinar d'or s'échange contre plus de dinars d'argent que la veille. D'accord ? Donc ça, il y a deux façons de le voir. Soit c'est effectivement le dinar d'or qui a augmenté par rapport à l'argent, soit c'est le dinar d'argent qui a baissé par rapport à l'or. Okay. Et donc si on dit que ce que Dava Tiva avait, que c'est l'or qui est monnaie de référence, alors à ce moment-là, l'or ne varie pas par rapport à lui-même. C'est l'argent qui a baissé par rapport à l'or. D'accord. Et c'est pour ça, les Hinaten Harbe Bedina. Donc on en donne plus qu'avant. Si on veut acheter un dinar d'or, on donne plus de dinarim d'argent qu'avant.
Mais excusez-moi, il n'y a pas le cas aussi où, une monnaie vaut moins qu'à une époque. Genre par exemple, l'euro il vaut plus que, plus que le dollar. Enfin, là, c'est des encore de monnaie, mais par exemple, le franc avant ça valait quelque chose. Il n'y a pas longtemps, ça valait, le franc valait quelque chose et on pouvait acheter plus de choses avec le franc qu'à une époque. Vous voyez, ou l'inverse, vous voyez ce que je veux dire?
Ça, c'est ah, c'est-à-dire par rapport. Oui, mais là,
par rapport à l'époque, en fait, par rapport à l'époque, vous voyez, c'est ce que c'est.
Ben oui, mais c'est sauf ça. Quoi sauf que finalement, là, vous allez le définir par rapport à quoi? Au panier de la ménagère, en fait. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça?
Ouais, hein, ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que. Ouais, c'est la capacité d'action, le d'achat.
Alors, effectivement, ça serait un autre système.
Pouvoir d'achat.
Ok, c'est-à-dire par rapport à au panier de la ménagère, c'est-à-dire quels sont les biens qu'on peut acheter avec cette monnaie-là. Effectivement, ça, c'est pas ce qui est clair pour la Gemara. C'est que ce qui est valeur de référence, c'est toujours la monnaie, et c'est pas les biens.
Mmh. Non, ça reste toujours aujourd'hui. C'est vrai qu'on pourrait imaginer être totalement renversé.
Oui, complètement. Parce
qu'avant, on pouvait acheter plus de choses, il me semble, avec le franc, ou alors...
Oui, mais parce que dans ce cas-là, c'est le franc qui a baissé.
Oui, mais est-ce que c'est un rapport avec ça ou c'est,
oui, là, c'est ça, c'est la dévaluation.
Oui,
mais parce, là... Que, non, parce que là, c'est la comparaison. Enfin, là, on est dans la comparaison, alors qu'avant, c'était plus... qu'on pouvait, le pouvoir d'achat, oui.
C'est oui, mais justement, c'est-à-dire que, en fait, là-bas aussi, là-bas, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez deux choses qui varient l'une par rapport à l'autre, ouais, il y en a forcément une qui est valeur de référence et l'autre qui est le bien qu'on peut acheter par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, quand on dit que aujourd'hui le franc ne vaut plus rien, c'est pas aujourd'hui le franc ne vaut plus rien, ça veut dire que c'est les biens qui ont augmenté. Ouais, d'accord. C'est les biens qui varient par rapport à la monnaie, c'est pas la monnaie qui varie par rapport aux biens.
Exactement.
Voilà. Et donc ici, quand on dit qu'est-ce qui varie par rapport à l'autre, en fait, la question c'est qu'est-ce qui est monnaie et qu'est-ce qui est bien. Soit c'est l'or qui est monnaie et c'est l'argent qui est bien. Donc quand hier le dinar d'or s'échangeait contre 25 dinars d'argent et aujourd'hui il s'échange contre 30 dinars d'argent, le dinar d'or n'a pas bougé, c'est le dinar d'argent qui a baissé. Parce que c'est l'argent qui est monnaie et c'est l'or qui est monnaie et c'est l'argent qui est bien. Donc a fortiori quand vous comparez des francs à des baguettes de pain ou des tickets de métro, c'est pas le franc qui a baissé, c'est le ticket de métro qui a augmenté. Ouais.
Et dans le cas des deux monnaies, c'est quoi? Enfin,
alors les deux monnaies en fait c'est toujours la même chose. Quand vous avez deux monnaies, ouais, le principe de base que pose la Mishnah déjà, quand vous avez deux monnaies, il y en a une qui fonctionne comme vraiment monnaie de référence et l'autre qui est relativement à cette monnaie-là, à valeur de bien.
Ouais.
D'accord. Et donc, le problème, c'est que maintenant qu'on a posé ça, et ça c'est, pour l'instant, on le pose, d'accord, mais ça va être débattu pendant deux d'Abim dans la Gemara, du lien avec ça. Parce que la Mishnah et la Gemara subséquemment, c'est jamais clair si, quand elle parle comme ça, de la valeur relative des monnaies, en disant l'or par rapport à l'argent est-il, enfin, l'or et l'argent sont-ils monnaie ou bien, c'est pas très clair, et en fait c'est un débat après chez les Rishonim, enfin chez les Géonim déjà, de savoir, quand on va dire par exemple que l'or n'est pas monnaie, est-ce que ça veut dire que l'or n'est pas monnaie par rapport à l'argent,
ouais,
d'accord, ou est-ce que ça veut dire que finalement l'or n'est jamais monnaie? D'accord. Est-ce que ces histoires de l'or est-il monnaie ou pas, c'est juste une question de relativité par rapport à une autre monnaie de référence, ou est-ce que ça se conçoit dans des termes absolus? Là, c'est pas clair.
Non, parce qu'on peut pas acheter de trucs avec de l'or, enfin, je suppose, enfin, en ce moment, je veux dire, à l'époque peut-être.
Mais c'est une autre question, mais la question c'est que même si vous pouvez physiquement acheter des choses avec de l'or, d'accord, c'est-à-dire vous pouvez aller chez un marchand et lui dire, écoute, je t'achète ça avec des dinars d'or.
Ouais.
Est-ce que finalement, c'est une vraie transaction monétaire? Au sens où, c'est quoi la conséquence pratique, la Nafkamina? C'est en termes de possibilité de rétractation. C'est comme ça que le conçoit la Mishnah. Comme on l'a dit, quand je vais chez un commerçant et que je veux acheter une Apple Watch, okay, un truc.
Ouais, c'est la mode.
Voilà, c'est la mode. C'est un truc qui coûte cher. Je vais acheter une Apple Watch. Je vais à l'Apple Store et je viens avec des dinars d'or. Okay, on est sous Daesh, on a rétabli des dinars d'or. Je veux acheter mon iWatch, mon Apple Watch avec des dinars d'or. Est-ce que Imaginons, c'est sûr que si je prends l'Apple Watch et que je dis, écoute, j'ai pas mon argent sur moi, demain je te paye. Le mec dit, ok, y a pas de problème. Et en sortant de la boutique, je me fais tirer mon Apple Watch.
On est, vous la faites piquer, c'est ça?
Ouais, on est. C'est quoi la capitale?
Oui, c'est toujours Daesh.
Raqqa. Ok, Raqqa, c'est chaud. Hop, y a un mec qui m'a tiré mon Apple Watch en sortant.
Je crois pas qu'ils ont beaucoup d'Apple Watch alors. Je ne suis pas encore allé, mais ça peut
être. Peut-être en Iran ou en Irak, là-bas il y a le pétrole. Hein.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est clair que je me suis fait voler mon Apple Watch en sortant du magasin. Je ne peux pas dire au commerçant, écoute, c'est ton Apple Watch qui a été volé. C'est-à-dire que c'est mon Apple Watch, tu vois, j'ai acquis le truc. Je n'ai pas payé, mais j'ai acquis. Donc je lui dois l'argent. Ça, c'est clair. La question, c'est maintenant, je suis allé chez le commerçant, j'ai donné, j'ai payé dans la monnaie où tout le monde est d'accord que c'est de la monnaie. Hein. Mais je n'ai pas encore pris l'Apple Watch. Il me dit, je n'ai pas de stock, reviens demain. Enfin, c'est dans mon stock qui est à l'autre bout de la ville, reviens demain, j'aurai ton Apple Watch. Je reviens le lendemain, il me dit, ah, écoute, mon entrepôt a été pillé. Et donc, ton Apple Watch qui était dedans, elle a été volée avec. C'est ton Apple Watch parce que tu m'as payé. Okay? Alors, ça, la Gemara, c'est une discussion de savoir si c'est des Oraita ou des Rabbanan, mais en tout cas, la Halakha, c'est que Ma'ot et Nan Konot, la transaction n'est pas définitive, le bien n'est pas acquis par le simple fait que j'ai payé. Que j'ai payé avec de la monnaie.
C'est-à-dire que vous avez payé avant de voir l'objet.
Voilà. Okay. J'ai payé, mais je n'ai pas pris l'objet chez moi. Et le type me dit, écoute, ta montre qui est à toi parce que tu me l'as payée, écoute, elle a été volée, donc tu as perdu ta montre, tu as perdu ton argent.
Vous avez anticipé, c'est ça? Voilà.
Vous avez anticipé? Ouais, on a donné l'argent, on n'a pas encore récupéré l'objet. Alors maintenant, la question se pose, si j'ai payé avec des dinars d'or, est-ce que ça s'appelle une transaction monétaire? C'est-à-dire que le fait que j'ai donné les pièces d'or correspond à un paiement en monnaie, et donc effectivement la transaction n'est pas finalisé, tant que j'ai pas récupéré mon Apple Watch, ou est-ce que finalement c'est un mode de troc? C'est-à-dire c'est comme si j'étais allé au magasin et j'avais échangé un tableau de maître contre une Apple Watch. Okay. À ce moment-là, c'est clair que le tableau de maître n'est pas un paiement monétaire. C'est un échange, j'échange un objet de valeur contre un autre objet de valeur. Ensuite, on peut discuter, savoir est-ce qu'il y a une différence si c'est juste un échange d'objet contre objet ou est-ce que c'est un échange d'objet contre objet avec évaluation de valeur et contre-valeur. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, les deux, ce sera un mode, ce qu'on appelle Kinyan Khalipin.
Parce qu'en fonction de la monnaie, l'état de la transaction change, c'est ça?
Ça dépend, c'est-à-dire que je peux aussi bien dire, écoute, je t'échange un truc, un tableau de maître qui vaut 200 000 euros contre une Apple Watch qui vaut 600 euros, ça vaut pas la même chose, mais on est OK pour la transaction, tu vois. Hein, à la limite, on n'a pas fait une évaluation précise de combien ça valait. Le mec est d'avance, ouais. Mais en tout cas, peut-être que dinar zahar, c'est comme ça. Peut-être que dinar zahar, finalement, un dinar d'or, ce n'est pas une monnaie. C'est un objet de valeur. Comme une montre en or. Okay. C'est ça la question. Alors, est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'on va dire que non, finalement, l'or, c'est quand même bien une monnaie, et c'est uniquement dans des questions d'échange entre différentes monnaies, ou relativement à une monnaie de référence qui est l'argent, l'or reprendra un statut de produit.
Mais c'est une question qui va devenir actuelle pour aujourd'hui. Hein.
Vas-y.
Parce que maintenant, il y a le développement avec les réseaux sociaux de sites de troc. Ouais. Il y a un site, j'ai entendu sur BFM, une start-up qui a monté du troc. Donc, ça serait intéressant de voir comment est-ce que c'est fiscalisé. Est-ce qu'on paye de la TVA là-dessus? Ouais.
Et plus encore, quand c'est des sites d'échange de services.
Ah voilà, comme Welp, c'est un site français qui marche très bien.
C'est-à-dire que, tu vois, il y a un type, il vient m'aider à réparer ma porte. Et ça lui donne des crédits qui n'ont aucune valeur financière, mais qui lui donne des droits de demander un service.
Ça s'appelle les monnaies virtuelles. Ouais. Hein, c'est des monnaies virtuelles.
Ouais, c'est comme le troc, non? Enfin, c'est un troc abstrait, c'est ça?
Alors, c'est ça la question. C'est que, est-ce qu'un troc, plus largement, c'est complètement différent d'une transaction financière, c'est complètement différent des questions de valeur numérique, tu vois? Ou est-ce que finalement, toute transaction, elle se ramène à un échange de valeur?
Ouais. Oui, et surtout, cette dame-là qui faisait son titre de troc, elle avait dans son site une monnaie qu'elle appelait, je crois, des noisettes. Non, mais c'est très sérieux.
Mais qui a un simple mode d'évaluation des valeurs relatives des biens ou des services à changer.
Attends, les gens, ça, c'est de comprendre, c'est de la monnaie, c'est quoi la monnaie. Et le bitcoin, c'est un exemple énorme. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et par rapport à l'or et à l'argent, dont parle Agmara. Il y a eu en France une période de bimétallisme. Il y a eu deux périodes, et plus aux États-Unis, en France, de bimétallisme. Il y avait deux systèmes avec l'or et pour les grandes, exactement comme on peut avoir, c'est-à-dire l'or pour les monnaies de référence pour les banques centrales, etc. Et puis pour les choses plus courantes, l'argent. Avec justement une parité entre les deux, etc.
Et donc la question se pose dans un cas comme ça, quand tu vas contracter un prêt par exemple, parce que donc finalement, que l'or soit...
Voilà, francs, on parlait des francs, voilà.
Et on avait des pièces de 5 francs en argent.
Voilà, et voilà, donc c'est ça le bimétallisme. Donc c'est exact, en fait c'est resté une question...
C'est resté très longtemps, et la question qui se pose c'est que quand on dit par exemple que l'or est bien, de manière absolue, comme une montre en or, même si c'est la forme d'une pièce, ou qu'on dit que c'est juste... par rapport à la monnaie de référence de l'argent, que le bien serait un bien, que l'or serait un bien, pardon, ça nous dit, la Gemara ici, une incidence sur les questions de prêt à intérêt. Parce que on ne fait, pour le résumer, après on va reprendre Rashi, mais je vous présente très largement la théorie, on n'a pas le droit de prêter à intérêt. Alors il y a deux types de prêt à intérêt. Il y a ce que dans la Gemara on appelle Necher, qui est le prêt à taux fixe, c'est-à-dire je te dis je te prête 100 et dans 6 mois tu me rends 120. C'est ce qui est interdit par la Torah. Et ce que la Mishnah appelle Ribit, même si en fait dans la Torah les deux termes sont interchangeables, Necher et Ribit. Ribit, c'est Ribit des Rabbanan, c'est quand on va prêter quelque chose où il y a un risque que un profit soit créé par cette transaction-là, même si ce n'est pas du pur intérêt. C'est-à-dire que c'est, l'exemple qu'on va donner là-bas, c'est des choses qui s'apparentent en fait plus à de la spéculation qu'à vraiment du prêt intérêt. C'est le cas où, par exemple, quelqu'un va voir un banquier et lui dit, voilà, je voudrais acheter pour 100 euros de blé. Et ensuite, quand le blé a augmenté, il dit, écoute, les 100 euros de blé que je t'ai acheté la dernière fois, maintenant ils valent 120 euros. Je vais échanger mes 120 euros de blé que j'ai acheté 100 euros contre 120 euros de vin. Okay, maintenant, je change le machin. Et puis ensuite, le vin, il a augmenté. Les 120 euros de vin sont redevenus 200 euros. Il dit, bon, maintenant, je vais récupérer mon capital. Donc, le mec, il a mis 100 euros. Il a récupéré, au final, 200 euros. Sauf que c'est pas du il n'a pas prêté un intérêt à la banque, quoi. Mais il y a eu création de valeur, etc. Donc, ça, c'est un intérêt des Rabbanan. Et c'est ça le cas ici dont on parle.
Ça s'appelle tout en finance. Ça s'appelle CFD, Contract for Difference. Ouais. Contrat pour les différences.
Et la bourse, est-ce que c'est autorisé enfin,
effectivement, c'est tous ces mécanismes-là, on parle que entre juifs, hein, donc c'est interdit.
Là, c'est pas la bourse, attention, ça, c'est ce que je viens de décrire, c'est les CFD. Parce que la bourse, c'est que tu achètes soit de la dette dans l'entreprise, soit de la dette, soit du capital. Capital, c'est autorisé pour faire entre juifs, j'ai le droit d'investir dans ton entreprise, ça, c'est autre chose.
Attends, spéculation tout à l'heure, et en gros
c'est pas sûr parce que tu vas avoir aussi le problème de finalement parce que t'as un autre problème dans Ribit. On peut faire un petit excursus là-dedans. Un autre problème dans Ribit, ça va être celui de l'investissement dans une entreprise.
Dans un ESSEC.
Ouais.
Tu vas rappeler ESSEC, non?
Ouais. Ça s'appelle ISCA là-bas. Le vous voulez qu'on fasse ça très tic-tac comme ça? En gros, l'idée, c'est que si je dis à quelqu'un, voilà, toi, tu as besoin de 10 000 euros pour relancer ton business. Ok, je te passe les 10 000 euros et on fait 50-50 sur les pertes, 50-50 sur les profits. Et sachant que les 10 000 euros me restent dus au final quand je veux retirer mes billes, quoi. Ok? Donc, et là-bas, la Gemara dit, c'est un problème parce que c'est palga picadon, palga milva.
Mais ça, c'est pas une action, c'est ce que tu viens d'écrire, tu vois. Ça, c'est puisque les 10 000 euros lui sont dus. Donc, c'est pas une action. Acheter une action, ça me paraît une chose à foutre, c'est se mettre en commun. Ouais. C'est
oui, mais après, tu auras un problème quand, en fait, tu ne fais pas un investissement en bourse par toi-même, mais que tu achètes des produits financiers à une banque.
Voilà, c'est ce qu'on a parlé, c'est ce qu'on vient de dire.
Les actions, c'est ça.
Ben, les actions, non.
Les actions sont vendables.
Les actions, c'est des parts d'entreprise, donc ça a l'air quand même correct. C'est pas ce que je viens de voir.
En tout cas,
c'est les CFD dont tu as, c'est-à-dire les CFD qui permettent justement de faire exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, tu achètes par exemple un CFD sur le blé, puisque ça se fait toujours.
D'accord, sur les matières premières et sur les choses comme ça. Quoi.
Ah, il y a du blé, surtout. Les CFD, il y en a surtout. Ouais. Surtout, tu as aujourd'hui les CFD. Alors,
effectivement, il faudrait voir est-ce qu'Alpi à la fin, il y a une différence entre ça et investir.
L'action qui est vraiment avoir un bout d'une entreprise, ouais. C'est pas. Une fois que tu as mis l'argent, l'argent n'est pas du tout. C'est pas comme tout le monde. C'est pas le cas de
l'ISCA. C'est vrai que c'est pas le cas d'un investissement.
Où tu as quand même une garantie sur capital.
Mais est-ce qu'il y a le problème en fait pourquoi est-ce que vous discutez j'ai bien compris le.
Bah justement, pour savoir, est-ce que ce problème de dire que, de la même manière que tu peux pas faire de la spéculation comme ça sur les matières premières auprès d'une banque, est-ce que ça s'étend aussi au fait d'acheter des parts dans une entreprise?
Oui, c'est
très différent.
Bon, en tout cas, c'est ça. Donc voilà l'idée.
On ne sait pas.
Non, je ne sais pas. C'est une étude à faire. On ne va pas traiter ça à la rigueur. Il faudrait déjà faire toute l'analyse des évolutions des mécanismes pour voir ensuite comment ça fonctionne.
C'est des années d'études.
Mais c'est une piste. C'est une piste. Et donc, le problème est que de la même manière qu'on ne peut pas faire de la spéculation comme ça sur les matières premières, ça s'appelle ribit des rabanan, parce que finalement, on risque de toucher plus d'argent qu'on a investi au départ. Mais il y a de la même manière, on ne peut pas dire à quelqu'un « prête-moi aujourd'hui un quintal de blé ». Et dans 6 mois, je te rends un quintal de blé. Parce que il y a le risque que la valeur du quintal de blé ait varié entre temps, qu'elle ait augmenté. Or, comme les questions de ribit, ça se calcule toujours en valeur monétaire et pas en bien, c'est-à-dire que la valeur d'un bien, c'est toujours une valeur monétaire, la seule manière de faire normalement, c'est de dire je te prête 100 euros de blé et tu me rends 100 euros de blé, quelle que soit la variation du volume.
Ça veut dire que. Ça voudrait dire qu'en fait, la quantité importerait moins que la valeur.
C'est oui, c'est la valeur qui détermine s'il y a ribit ou pas. Okay. La seule exception, comme c'est des rabanan, cette histoire-là, parce que c'est pas vraiment un prêt à taux fixe comme ce qui est interdit par la Torah, cette histoire-là, c'est que un des rabanan. Donc les chachamim ont dit que dans le cas où la personne possède par ailleurs le même type de bien sur lequel elle contracte un emprunt, c'est par exemple elle emprunte un quintal de blé et elle a du blé en stock, même si ça ne lui est pas immédiatement disponible, et même si ça ne correspond pas, si c'est moindre que la quantité qu'il emprunte, à ce moment-là, ça fonctionne. Et plus largement, ça fonctionne aussi dans le cas où le cours du blé est déjà fixé. Parce que finalement, à partir de ce moment-là, on étend, même si aujourd'hui il n'a pas de blé en stock, comme il y a du blé disponible sur le marché à un cours qui est officiel, il peut très bien aller acheter un peu de blé et donc il revient dans la situation où il peut emprunter. Okay. Donc, c'est ce que la Gemara explique ici. Tu peux tout à fait considérer que l'or n'est pas monnaie, mais est bien, et pour autant, Rav était tout à fait autorisé à emprunter des dinars d'or et à rembourser les mêmes dinars d'or parce que il avait des dinars d'or chez lui. même s'il n'y avait pas accès, ou même en fait, si on est dans la logique, même si finalement il a de l'argent et il pourrait acheter un ou deux dinars d'or qui serviraient de support matériel à ce prêt. Donc c'est ce que Rashi explique. On aurait pu penser que c'est interdit si l'or est bien d'emprunter en dinars d'or parce que Havelé CABCA. Shayukar veazol talui beperot, d'accord, parce que c'est l'or serait bien et le, serait perot ici, hein, fruit. Et ce serait donc ça qui varie par rapport à la monnaie de référence. Veasur, et ça c'est interdit. Des tanan les kaman, parce qu'on enseigne plus loin dans les émunés chers. Lo yomar adam le chavero halveni kur chitin veani noten lecha begoren shema yukaru veyavu lide ribit. Quelqu'un ne peut pas dire à son ami, prête-moi un cours, c'est un certain volume de grains de blé, et plus tard, quand ce sera le moment de la mise en silo, je te rembourserai la même quantité de blé. Pourquoi ? Parce que il y a un risque que le cours du blé augmente, et que donc on arrive à une situation de ribite. C'est ce que j'ai expliqué.
Ou qu'il baisse d'ailleurs.
Que la valeur change. C'est
oui, ça. Ou qu'il baisse. Mais s'il si baisse, c'est pas grave, il n'y a pas de limite.
Vous voulez dire que la valeur.
Mais l'autre a gagné.
Alors ça, il faudrait voir. Est-ce que quand ça varie, est-ce que c'est symétrique ou pas? C'est pas clair. Parce que s'il prête et que finalement c'est le prêteur qui a perdu, il n'y a pas d'intérêt de limite. Justement. Tu vois bien que Rashi précise uniquement si ça a augmenté de valeur.
Non, c'est intéressant de voir que c'est pas si. Que c'est pas.
C'est asymétrique.
C'est asymétrique parce que.
Est-ce que le problème de ribite c'est lié au gezel ou pas du tout
en fait? Oui, bien sûr, c'est lié au gezel.
Bah, si on dit ça, alors c'est pas que. C'est dans les deux sens alors.
Alors, effectivement, c'est une question. Parce que la différence par rapport au gezel, c'est. On n'est pas dans cette tsugia. c'est 15 d'apim aussi dans les échelles.
On dirait que malgré tout, c'est pas pareil quoi. C'est ouais. Pas le même.
Non, parce qu'en plus, la différence de ribite par rapport au gezel, c'est que. Dans Gezel, il n'y a que le voleur qui est chayav, alors que dans Ribit, c'est aussi bien le prêteur que l'emprunteur qui sont fautifs. Okay. Bon, je passe un petit peu rapidement là-dessus, parce qu'on ne va pas faire tout le Perek et Zonécher juste sur ce rachis. Et on répond, c'était même si les dinars d'or sont pérotes et pas monnaie, il n'y a ici, il n'y avait pas de problème de CABCA. Pourquoi ? Parce que Dinaré a voulu, parce que Rav avait des dinars d'or chez lui, que chez Lava et Elou, quand il a emprunté les autres. Les gars, les CABCA, et à propos de cette histoire de CABCA, de prêt exprimé en quantité de biens, Tanan, Aval Omerlo, Halveni, Hatche Yavo Beni, O Hatche Amsa Maftea. Prête-moi le temps que mon fils revienne, ou est-ce que je trouve la clé? Autrement dit, j'ai du stock, mais j'y ai pas accès présentement. Chez Elou, chez Beyado, Niknin, les Malvés. Parce que. Alors, ça, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas si pas chouette que ça. Rachid donne une explication ici, qui n'est pas forcément celle de l'Agmara. Il dit parce que finalement. Quand le type dit prête-moi un quintal de blé parce que j'ai 15 kilos de blé chez moi, donc ça marche. Finalement, les 15 kilos de blé de l'emprunteur sont acquis au prêteur.
Tous les 15 kilos ?
C'est pas clair, je sais pas ce qu'il veut dire. Ou birchuto ou karou. Et finalement, donc c'est dans le. La variation de valeur a eu lieu dans la possession légale du prêteur.
Mais par quel kinyan ça aurait eu?
Ouais, c'est pas clair du tout. Je souligne la difficulté, mais il faudrait faire toute cette sugya de CABCA là-bas. C'est pas mon objectif ici, hein, parce que là on voit juste les mécanismes appliqués de la monnaie. Mais il a l'air de dire que ça fonctionne comme ça. C'est dans la mesure où finalement. La variation de valeur a lieu toujours dans le réchout sous l'autorité du prêteur, Alors à ce moment-là, il y a pas de la variation n'a pas lieu chez l'emprunteur. Et donc c'est permis. Pourquoi ? Des ribit se abesea des rabanan. Parce que cette interdiction de prêt exprimée en quantité de biens, ce n'est pas de horaita, c'est un décret des chachamim. Obichai gavna lo gazur. Et ils ont explicitement exclu ce cas de figure de leur décret. C'est pas clair parce qu'en fait là-bas on dit effectivement que même s'il a un seul grain de blé, il peut emprunter des tonnes et des tonnes. Donc je vois pas trop en quoi le fait que ce grain de blé-là il change de valeur chez le prêteur, ça contrebalance le fait que les 15 tonnes varient, changent de valeur chez l'emprunteur, mais bon. En tout cas, vous voyez la logique ici. Ok, alors que Tosfot pose une question qu'on va faire rapidement qui est intéressante, même si elle ne paraît pas essentielle. Finalement, Rav, d'où vient son problème ? Rav, il sait très bien ça. Rav, il connaît cette histoire de CABCA et que si on a chez soi, etc. C'est une Mishnah. Okay. Rav, c'est l'élève de celui qui a composé la Mishnah. Il connaît la Mishnah. Okay. C'est pas le petit-fils, mais c'est l'élève de l'élève. Donc ça, il connaît la halakha quand même, Rav. Alors Tosfot il explique. Ve Rav debaye mer Rabbi Chiya. Rav, pourquoi il pose la question à Rabbi Chiya? Afal gav de matnitinhi beperek ezeu nesher. Même si c'est une Mishnah explicite dans le chapitre suivant. Mishum de shema halakha kehilel de pligé atam il chata kehilel. Parce qu'en fait la Mishnah elle dit ça, mais elle dit que Hillel n'accepte pas ce principe, il considère que ça reste interdit, CABCA dans tous les cas.
C'est quoi CABCA?
CA c'est une quantité de blé. Donc on échange une quantité de blé contre une autre quantité de blé.
Oui, c'est la même chose, non?
Non, ouais. C'est-à-dire on emprunte une quantité de blé en disant qu'on va rendre la même quantité de blé.
Ah, d'accord. Ouais, ça.
Et donc là-bas, il dit effectivement. Comme ça, c'est court. Donc la Mishnah dit ça. Lo yomar adam lechavero halveni kur chitin, v'ani etel lecha legoran, aval omer lo halveni ad she yavo beni, o ad she emsa mafteah. Ve ilel oser, et ilel lui il interdit dans tous les cas. Ve chen aya ilel omer, et ilel disait de la même manière, lo tilve isha kika lechavrata, ad she teaseh adamim. Même une femme ne peut pas prêter une miche de pain à sa voisine en disant je te prête une miche de pain aujourd'hui, tu me rendras une miche de pain demain. Mais il faut qu'elle exprime, qu'elle convertisse la valeur, la miche de pain qu'elle lui prête en une valeur monétaire. En disant je te prête une miche de pain de 2 euros et demain tu me rendras 2 euros.
Alors ça veut dire qu'on ne peut pas changer la même chose à terme, c'est ça ? Voilà. Pour les CRBCA, ça ne marche pas.
Voilà. CRBCA, c'est interdit, sauf si on possède du stock du même bien. D'accord ?
Ça n'est pas compris.
C'est un gros problème.
Un jour, mais en deux jours, ça change.
Enfin, oui, moi j'ai dit deux jours, mais ouais, c'est ça peut changer. Voilà. Mais maintenant, ça peut changer. Hein. Pourquoi ? Schema Yukaru Khiti, Venuseu, Baot, les dérivés. Parce que il est possible que le blé augmente et donc. On sera dans une situation de ribit, okay. Donc et ensuite dans la Gemara on discute de savoir quoi qu'est la halakha chez les Tanaïm. Est-ce que cette histoire de Hache Yavo Beni ça marche ou est-ce que la halakha est comme il est? C'est pour ça que en fait Rav il allait lui poser la question. Non pas en fait. Dans la avamina de cette analyse, on pensait que le problème de Rav, c'était ça, c'est ça que vient nous dire Tosfot aussi. Tosfot vient nous dire, ok, je comprends bien si on suppose. Je refais tout de suite. La Gemara nous dit, Rabbi Chiya, a priori, il pense que l'or est monnaie, parce que Rav avait contracté une dette en dinars d'or et finalement, il ne savait pas comment faire. Donc, il allait demander à
Rabbi Chiya.
Rabbi Chiya. Qui qui lui a dit, il n'y a aucun problème. Donc, là, de là, la Gemara veut déduire, donc c'est clair que l'or est monnaie. Et autrement dit, ça voudrait dire que la question de Rav à Rabbi Chiya, c'était, est-ce que l'or est monnaie ou est-ce que l'or est produit ? Et Rabbi Chiya lui aurait répondu, l'or est monnaie. Et finalement, la conclusion de la Gemara ici, c'est de dire non. Rabbi Chiya, il pense que l'or, il est produit. Et pour autant, il a autorisé le prêt à Rav, parce que sur ce principe de Hachéliavomé. D'accord ? C'est pas un problème de CABCA, parce qu'il avait des dinars d'or chez lui, donc il n'y avait pas de problème de ribit.
C'est pas une conclusion, ça, c'est une possibilité.
Oui, en tout cas, on sait.
C'est pas que. Il peut même penser comme voilà, ça.
C'est pas absolument conclusif, mais en tout cas, on voulait apporter
une conclusion. La conclusion, elle est qu'il n'y a pas de preuve.
Ouais. Il n'y a pas de preuve de ça. Et alors, donc là, en fait, la question de ça, c'est de dire d'accord, mais maintenant, à rebours, comment tu comprends la question de Rav ? D'accord ? Parce que Rav, il connaît cette histoire de CABCA. Ok ? Donc, si en fait, entre eux, c'était clair que finalement, l'or n'est pas monnaie mais produit, comment est-ce que Rav peut aller poser la question à Rabbi Chiya ? D'accord ? Ça veut bien dire que il ne peut pas ignorer CABCA. Et donc Tosfot nous dit non, la question Rav avait quand même une question, pas de savoir si Zav c'est Pera ou Tiba, mais de savoir si dans les Eunesher, dans CABCA, est-ce que la halakha elle est comme Chachami ou est-ce qu'elle est comme Ilan. Alors maintenant on essaye d'apporter une autre preuve, en tout cas un autre support à ceux qui pensent que l'or est monnaie. Amar Rava, Haytaina, Savar, Dava, Tivave. Il y a un Tana qui pense, en tout cas, que l'or est monnaie. Des Tania, parce qu'on enseigne dans une Braïta, qui se trouve. Où est-ce que c'est pour votre information. Dans Edouyot, ok, et rapporté dans Kiddushin. Pruta Shamru. Alors en plus, c'est Edouyot, donc a priori, il faudra aller voir là-bas, mais normalement, Edouyot, c'est que des Mishnayot sur lesquels tout le monde est d'accord.
Les témoins.
Ouais. C'est ça. Ouais. Edouyot, c'est les témoignages. C'est un traité de la Mishnah sur lequel il n'y a pas de Mara, mais Kiko.
Non, c'est pas ça. C'est pas
quoi, il y a des Braïtas dedans,
ça veut dire ? Non, ça c'est. Non, c'est dans la Mishnah, mais il n'y a pas de Gemara dessus. Mais c'est dans la Mishnah.
Après, ils ont mis des Tania là.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça fait que Bekouvia. Non, c'est pas le Edouche là. Edouyot.
Non, c'est Edout. Edouyot, c'est un traité qui ne porte pas sur le témoignage, qui porte sur les choses dont les Chachamim se sont accordés à tous témoigner que c'était comme ça.
Il y a une Tosefta sur cette Gemara ou pas ?
C'est possible qu'il y ait une Tosefta, mais.
Sur quoi ? Sur Rasa ?
Moi, j'avoue, mon.
Sur Rasa ?
Non, sur Edouyot.
Il n'y a pas de
Gemara.
Il y a pas
de
Gemara
dessus. Non, il n'y a pas de Gemara dessus.
Forcé à être servi.
Ouais. Ouais. Ouais.
Forcé à être sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont spécial, ces Edouyot ?
Non, ce sont des enseignements qu'on trouve ailleurs, mais qui sont assez consensuels.
Ah, ça peut aider à comprendre, c'est ça ?
Oui, parce qu'ils sont consensuels.
C'est des choses où sur lesquelles il n'y a pas de débat. Ah. Normalement.
Arbitraire, c'est pour ça. C'est arbitraire.
C'est pas arbitraire, c'est des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord.
Voilà. Oui, oui. C'est une vérité absolue, ce cas plutôt. Ouais.
Où est-ce que c'est des sujets tabous ?
Ça veut dire que si c'est tabou, ça veut dire que c'est un peu particulier, c'est ça ?
Vous cherchez des problèmes où il n'y en a pas. Edouyot, c'est pas tabou ? Quoi ? C'est pas des sujets tabous, Edouyot ?
Non, ça veut dire. Non, pas forcément tabou, mais plutôt qu'on ne peut pas remettre en question.
C'est
plutôt ça. Ouais.
C'est pas qu'on ne peut pas remettre en question, c'est qu'il y a eu des débats dessus aussi, ouais. Mais que finalement on est arrivé à un consensus et finalement tout le monde est d'accord.
Mais est-ce qu'à l'époque moderne on peut remettre ça en question maintenant ?
Non.
Ah bah voilà.
Mais pas plus que tu peux remettre en question les conclusions de la Gemara. Après, effectivement, qu'est-ce que c'est la conclusion de la Gemara ? On peut en discuter. Et qu'est-ce que ça veut dire ce qui a marqué dans la Duyot ? On peut en discuter aussi. Ouais. ça reste ouvert à débat, mais tu peux pas.
Parce que l'époque évolue aussi, vous voyez. Enfin, on change, enfin, on évolue dans le temps. Donc, peut-être que ce qui était
valable, oui, non, mais
c'était moins valable maintenant. Enfin, vous voyez,
c'est. Non, si on te dit c'est interdit d'allumer un feu à Shabbat, ça reste interdit d'allumer
d'accord,
un feu à Shabbat.
D'accord, mais peut-être pour autre chose, je sais pas.
C'est pour ça qu'on discute à l'achat.
Ouais.
Alors, Perek Dalet Mishnah Zayin. Ouais, je sais pas pourquoi ils disent Tania, parce que c'est effectivement dans Edouillot.
Mais parfois courage. Ça arrive.
Ouais. Parce qu'effectivement, Edouillot c'est un statut un peu particulier, donc peut-être que considère ça comme une braille, là, je sais pas, c'est pas impossible. Bon, c'est pas l'essentiel. En tout cas, là-bas, on dit comme ça. Pruta Shamru, Echad Mishmone, Beisar Eitalki. La monnaie qu'on appelle Pruta, qui est une petite monnaie, très petite monnaie, mais normalement la plus petite monnaie. Quand les sages disent Pruta, qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond à un huitième du hissar italien, qui est une monnaie a priori d'argent. Okay, une monnaie de référence par rapport à la Pruta. Okay. Les mains nafkamina, qu'est-ce que ça a comme conséquence pratique de connaître le taux de change entre la Pruta et le Issar et Talki? Les Kiddushé Isha. Pour quand on doit faire Kiddushin à une femme, il faut que l'objet de valeur qu'on lui donne vaille au moins une Pruta.
C'est l'anneau, c'est ça? C'est pas l'anneau?
Alors, aujourd'hui, c'est un anneau, mais à la base, c'est pas forcément un anneau. À la base, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un livre, ça peut être un sandwich, ça peut être n'importe quoi. D'accord. Du moment que ça a une valeur minimale.
Pour le mariage, un sandwich.
Ouais.
Un encart.
C'est pas terrible. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose de plus solennel quand même.
Non, mais pour te dire que, imaginons qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à dire à une nana, arrête mes coups d'échetli, mes sandwiches, et que la nana a dit, ok, ils sont mariés. Ah, c'était un sandwich, ouais, c'est un sandwich.
Si il y a des.
Oui, s'il y a des Eddy,
mais ça n'a pas de valeur, mais ça n'a pas de valeur.
Bah, si.
Par rapport à une bague, je veux dire.
On s'en fiche, justement, la valeur minimale, c'est Pruta.
C'est quoi Pruta?
Pruta, c'est une très petite monnaie. Et Pruta, c'est défini ici comme un huitième du hissar italien.
Non, mais par rapport à ce que dit monsieur, Betchama, lui, il ne serait pas d'accord.
Ouais, Betchama, il ne serait pas d'accord. Betchama, il demande une valeur plus importante.
Mais c'est toujours Hillel qui a raison.
Aujourd'hui.
Je suppose.
Aujourd'hui, mais dans le monde futur, on va être. Dans le monde futur, quand le Meshiach sera là, on sera apposé comme Betchama.
Je ne sais pas si c'est une Imata Mashiach.
Quoi?
On pourrait voir. Est-ce que c'est une Imata Mashiach ou est-ce que c'est une période plus reculée?
Peut-être dans le monde futur.
Okay. Bon, en tout cas, voilà. Donc, on a besoin de connaître la valeur, d'évaluer la valeur de la Pruta pour savoir que dans les Kiddushin, pour pouvoir évaluer ensuite la valeur d'autre chose. De savoir, est-ce que ce sandwich qu'il lui a donné, il vaut Pruta? Ok, alors tu me dis, il faut que ça vaille Pruta. Ça vaut quoi Pruta? Ça vaut un huitième de l'essar et talking.
Mais excusez-moi, qu'est-ce que dit Shammai justement? Enfin, toi vous parlez de Shammai.
Shammai, il dit il faut le dinar zahav.
Ah, il a encore plus de valeur justement, ouais. À l'objet.
Oui, il faut que ce soit quelque chose d'une valeur honorable.
Ah donc il va, comme moi, enfin comme ce que j'avais
dit. Ouais. Voilà. Ouais, il faut que ce soit.
Non mais des gens qui étaient pauvres à l'époque, comme ils disaient, c'était pas si simple.
Ouais.
Aujourd'hui peut-être qu'ils disaient. À l'époque, les gens étaient beaucoup plus pauvres qu'aujourd'hui. Enfin, mais maintenant, aujourd'hui, il y a plein de gens pauvres. Il y a des gens au Bangladesh, ils n'ont pas de quoi acheter.
Ouais, c'est pour ça qu'on a accordé une valeur minimale à
l'objet.
Voilà, non, pas forcément, non. Vous voulez qu'on fasse Kiddushin, monsieur? C'est tout le début de Kiddushin.
Non, mais c'est quand même.
De savoir pour quelle est la logique de Hillel et quelle est la logique de Shammai.
Oui, mais enfin, en pratique, j'imagine que ça joue aussi, quand même.
Ça joue aussi, mais là-bas, le débat, c'est justement, il faut qu'il y ait effectivement, la femme accepte cet argent-là. Alors, autant on comprend bien la logique de Shammai, qu'elle accepte à partir d'une certaine valeur. Et là, c'est une autre logique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la femme, elle accepte les Kiddushé Kesef? D'accord? Et finalement, ça renvoie là-bas à l'essence même des Kiddushin. Est-ce que ça veut dire qu'elle accepte, entre guillemets, de se vendre pour une certaine valeur? Alors là, tu peux comprendre qu'elle va pas se vendre pour un sandwich.
Oui, oui,
Ou alors, finalement, c'est un mécanisme un peu plus complexe que ça, et qui n'est pas un mécanisme où elle se vend, mais où un mécanisme où son acceptation d'un bien d'une valeur même minimale se fait symétriquement à son acceptation des kiddushin. Alors, là, je discute vraiment dans le vide, mais est-ce que finalement, ce qui est essentiel, c'est qu'elle accepte les kiddushin et que son acceptation de l'objet qu'on va lui donner, même s'il a une valeur symbolique, en fait, est finalement juste le support matériel de l'échange qui se passe entre eux deux.
De l'acquisition spirituelle. Ouais.
Ça, on pourrait voir comme ça. Là-bas, justement, toute la discussion au début de la Gemara dans Kiddushin, c'est savoir finalement est-ce que cette histoire de Kiddushin, c'est un kinyan essentiellement, même si c'est pas un kinyan de vente, mais c'est un type de kinyan, ou est-ce que c'est par exemple un cas de Pidyon Hekdesh. Pidyon Hekdesh, c'est-à-dire que c'est y a quelque chose qui a été consacré à Dieu. Okay. J'ai offert cette chaise à Dieu, au sens où je l'ai réservée à la choule et machin, et on peut faire que des brites milotes dessus, etc. Et finalement, je décide de racheter cette chaise, et donc je donne sa contre-valeur d'argent, et je récupère cette chaise qui retourne à un usage profane, tu vois. Ça, c'est pas un mécanisme de Kinyan, c'est un mécanisme qu'il y avait quelque chose qui avait un certain statut qui était inaccessible, qui était Hekdesh, réservé à un usage sacré. Et finalement, par le fait que je vais donner de l'argent, je le transfère à un usage profane. Alors peut-être, là-bas, la Gemara a dit, peut-être que finalement, Kiddushin Isha, c'est comme ça. Kiddushin Isha, c'est un système où finalement la femme, elle avait une sorte, un statut de Hekdesh où personne ne pouvait la toucher. Et par le fait que tu vas lui donner Kiddushin, alors c'est comme Pidyon Hekdesh que tu l'as, toi tu peux, elle n'est pas sacrée au sens de hors limite pour toi.
Mais excuse-moi, mais avant de consacrer cette chaise à la synagogue, elle était profane aussi, je suppose.
Oui, oui, oui.
Donc est-ce qu'elle ne pourrait pas redevenir profane si elle a déjà été une fois? Vous voyez? Enfin, spirituellement.
Non, mais on peut faire Pidyon Hekdesh.
Ouais.
C'est pas la question. Ouais. Et la question, c'est est-ce que le fait de faire Kiddushin, au sens que je vais donner de l'argent et en échange, je vais avoir le droit d'avoir une vie intime avec cette femme, est-ce que c'est un mécanisme de Kinyan ou est-ce que c'est un mécanisme de Pidyon Hekdesh? Ouais. C'est ça la question. Bon, c'est pas notre sujet. On fait tout chasse en même temps, mais c'est pas grave.
C'est bien comme ça. Hein.
Très bien.
Excuse-moi.
Oui.
Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure?
Non. Moi?
Ouais.
Je sais plus, peut-être.
Ok, donc ensuite. Ensuite, on continue. Issar. Maintenant, ce Issar lui-même, qu'est-ce qu'il vaut? Echad me esrim ve'arba bedinar shel kesef. Le Issar vaut 1/24 du dinar d'argent. Les maïnaf kamina. Quelles sont les conséquences pratiques de cela? Les mekar ou memkar. Pour les échanges commerciaux. Alors là-bas, ça va être un débat entre Rashi et Tosfot. Qu'est-ce que ça veut dire ce mekar ou memkar? Dinar shel kesef. Echad me esrim ve'chamisha bedinar shel zav. Le dinar d'argent lui-même vaut 1/25 du dinar d'or. Les maïnaf kamina. Les pidyon aven. Pour le rachat du premier-né. C'est ça la conséquence pratique. Pourquoi? Parce que Pidyon Aben, il faut, la Torah est dit que, comme dit Rashi, Shehu Chamisha Shekalim. La Torah dit que quand un premier-né naît à un Israël, il doit donner 5 dinars d'argent, 5 shekels d'argent, pardon, 5 shekels d'argent au Kohen.
C'est le bébé, c'est ça?
Le bébé, quand il a un mois et que c'est le premier-né, si le juif n'est pas un Lévi ou un Kohen, il doit donner 5 shekels d'argent au Kohen.
C'est plutôt le père, non? La mère? C'est le bébé, il ne peut pas faire grand-chose.
Oui, ouais, non, le père, évidemment.
Enfin, c'est toujours tendu, c'est ça?
Oui, c'est bien évident.
Est-ce que le fait que ce soit Chamisha Shekalim, c'est en rapport avec le Chomesh quoi, du Pidyon en général? Dans beaucoup de cas, le Pidyon est avec le Chomesh.
Je sais pas, je vois pas ça forcément.
Ok,
mais
c'est une question à
parler. Peut-être, hein, peut-être c'est une piste, mais c'est pas grave.
Est-ce que je pense que ce soit le bébé qui doit donner, c'est spécial, enfin, je veux dire,
Non, c'est pas le bébé qui donne, c'est le père qui donne.
Oui, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on dit c'est le bébé qui donne? Oui.
Non, c'est pas le bébé qui donne, c'est, je me suis mal exprimé. C'est le père qui donne.
Peut-être que c'est justement il avait un rôle à jouer.
Non, il joue aucun rôle, c'est le père qui rachète. D'accord. Et donc, Shekel de Oraita. Donc, quand la Torah est pour le terme de Shekel, ça correspond où c'est là. C'est la même chose que ce qu'on appelle Sela. Vers Sela, et le Sela en lui-même, Arba'a dinar et kesef. Le Sela, donc le Shekel, vaut 4 dinars d'argent. Donc finalement, les 5 Shekel, Shehem, et Srim dinar. 5 Shekel, c'est 20 dinars d'argent. Ve'im natan lo avi aben dinar zav. Alors maintenant, imaginons que le père de l'enfant, il donne au Kohen non pas 5 shekels ou 20 dinars d'argent, mais lui donne un dinar d'or, qui vaut 25 dinars d'argent. Marzir lo à Kohen, chamisha dinar et kesef. Donc il lui rend 5 dinars d'argent. Normalement,
c'est-à-dire
le père, il doit donner 20 dinars d'argent. Plutôt que donner de 20 dinars d'argent, il donne un dinar d'or qui vaut 25 dinars d'argent. Donc le Kohen, il aura la monnaie, 5
c'est
dinars
plus,
d'argent.
C'est plus que ce qu'il doit donner.
Et c'est pour ça qu'il aura la monnaie.
Ah, il donne 5 dinars d'argent, c'est ça le Kohen?
Ouais. Okay. Le père, il a donné un dinar d'or, donc en fait, il a donné 25 dinars d'argent. Le Kohen lui rend sa monnaie, 5 dinars d'argent. Okay. Et donc, on pose la question. En quoi est-ce que tout ça, ça prouve finalement que ce Tana pense que c'est l'or qui est monnaie et l'argent qui est bien. Yamar Bishlama Tiva Ave. Tout va bien si tu me dis que l'or c'est la monnaie. Ave Mesha Aer Tana, Bemide de Kaitz. Le Tana évalue ici le dinar d'argent en fonction de la monnaie de référence qui est invariante, qui est le dinar d'or.
C'est quoi Kaitz? C'est quelque chose qui est Katsou?
Ouais, Katsou. Okay.
L'or ne change pas, l'or ne change pas.
Voilà, si on dit que c'est l'or qui est monnaie, c'est-à-dire que c'est l'or qui est l'invariant.
C'est-à-dire si tu payes avec le dinar d'or, ça ne change pas, c'est ça?
Et donc ça veut dire quoi? Rachid le dit. Iamar beshlama dava tivave. Si tu me dis que c'est l'or qui est monnaie, ven ayukar veazol talouibo. Donc lui ne varie pas. D'accord. Mesher tana bemide de kaitz. Donc le tana donne la valeur de différentes monnaies en fonction de la monnaie invariable de référence. Shier tana pidyon aben bemadbea akatsuv. Donc le tana a donné la valeur du pidyon aben en fonction de la monnaie qui est déterminé, qui est fixe. Chez Afilo Bizman, chez Enonim Kar, Yoter, mais Esrim Dinar et Kesef, Yachzir HaKohen, c'est quoi la correction du Maharshal? Qu'est-ce que c'est? Sinon, ça veut rien dire. Où est-ce que c'est passé ce truc?
Chamishit chez Bedamav.
Voilà, Chamishit chez Bedamav, Dehenu Arba Dinarim. Il va lui rendre un cinquième de la somme qu'il a donnée, donc 4 dinars d'argent.
Non mmh. Ah, et non plus 5.
Et non plus 5. Shazav tamid damav katsuvin. Esrim vechamisha dinarim. Shehu amadbea veakesef avepera legabe. D'accord? Parce qu'en fait, finalement, tu peux avoir une variation comme ça. Apparente du dinar d'or, qu'aujourd'hui il vaut 20 dinars d'argent alors que normalement il devrait valoir 25 dinars d'argent. Mais en fait, c'est pour cette histoire de pidyon aben, c'est l'or qui est la monnaie de référence. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, comme il va le dire ici, il vaut toujours 25. D'accord ? Et c'est l'argent qui est produit et qui varie, qui est produit par rapport à lui. Vermaoten chez Ukaru, Et donc, en fait, c'est les dinarim d'argent qui ont augmenté de valeur. De la même façon, si c'est l'inverse, si finalement un dinar d'or, ça vaut 30 dinars d'argent, lo yachzir lo à Kohen, et là, un chamishit chez Medamav, il va lui rendre un cinquième de ce qu'il a donné. Donc, il va lui rendre 6 dinars d'argent, et non pas 10. D'accord ? On aurait pu penser que c'est 30 moins 20, donc il lui rend 10. Non, c'est 30 moins un cinquième, donc il lui rend 6.
Mais avant, c'était pas 4.
Parce que quand on était... En fait, il dit, voilà, je finis Rashi et je le réexprime en des mots plus clairs.
Avant, c'était 5, c'était 4.
Chez Damav, Léolam, Katsuvim, Verba, Khumche, Damav, Hen, Pidyanaben. Parce que finalement, la valeur qui est fixe, c'est la valeur de l'or. Et donc, quand la Torah, elle a donné une somme fixe pour le Pidyon Aben, en fait, elle a donné une valeur fixe de l'or. C'est-à-dire que quand la Torah a dit que le Pidyon Aben, c'est 5 shekels, donc 20 dinars d'argent, en fait, elle dit 20 dinars d'argent par commodité. Mais la valeur réelle qui est visée, c'est 4 cinquièmes d'un dinar d'or. Parce que le cours statutaire, tu vas dire, du dinar d'or, c'est 25 dinars d'argent. C'est ça la valeur de référence. C'est-à-dire que quand on va faire des conversions entre... quand on va vouloir donner la valeur réelle des sommes qui sont données dans la Torah, qui sont exprimées en shekel, ces shekels-là, il faut les convertir en fraction du dinar d'or. C'est ça la valeur fixe. Quand la Torah dit 5 shekels, ça veut dire 4 cinquièmes de dinar d'or. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire 20 dinars d'argent, quelle que soit la valeur du dinar d'argent par rapport à l'or. Ça se calcule en fonction du dinar d'or. Ça, c'est chita. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça que Rava analyse la Braïta. Il dit, si la Braïta, elle vient te dire quelle est la valeur, que la valeur du dinar d'argent par rapport à la valeur du dinar d'or, elle est importante pour le calcul du Pidyon Aben. Si finalement le Pidyon Aben il se calcule en pièces d'argent, tu t'en fiches de la parité du taux de change entre l'or et l'argent. Tu calcules en fonction de l'argent, zéro. Okay. Et si l'or il varie, et ben tu te bases sur le cours de l'argent. Okay. Et donc effectivement, tu vas me dire que si le dinar d'or il vaut 20 dinars d'argent, alors qu'il doit lui. Il donne un dinar d'or, et puis il a donné ses 20 dinars d'argent. S'il vaut 25, il lui rend 5. S'il vaut 30, il lui rend 10. Mais finalement, tu t'en fiches de la valeur du dinar d'or. C'est complètement accessoire. La question, c'est qu'il doit lui donner à chaque fois 20 dinars d'argent. Okay. Donc si la Mishnah, là, dans les douillottes, elle vient nous dire non, c'est super important de connaître le taux de change entre le dinar d'or et le dinar d'argent, c'est qu'en fait, le Pidyon Aben, il se calcule en fonction du dinar d'or. Quand la Torah dit 5 shekels, elle veut dire 4 cinquièmes de dinar d'or.
Ça fait combien ?
Et donc, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que si le dinar d'or, il vaut 20 dinars d'argent, ouais, alors il doit lui rendre 4 dinars d'argent. Si il vaut 25, il doit lui rendre 5. Mmh. S'il vaut 30, il doit lui rendre 6. Mmh.
D'accord. Ouais. Ah,
C'est en fonction du dinar d'or.
Donc il peut changer, ça veut dire. Donc la valeur du dinar d'or peut changer.
Non, justement, la valeur du dinar d'or ne change pas. C'est la valeur du dinar d'argent qui change.
Ah, et en quoi ?
Parce que il doit toujours, pour faire le Pidyon Aben, le père doit toujours donner 4 cinquièmes de dinar d'or au Kohen.
Oui, mais qu'est-ce qui fait que le dinar d'argent change ? Enfin, que le...
Parce que c'est le cours de l'argent qui varie.
Ah, d'accord. Non, c'est toujours 25 dinars d'argent.
Non, ça c'est juste la valeur statutaire pour savoir que quand la Torah elle parle en shekel, ouais, okay, quand elle dit un shekel, donc on a dit un shekel c'est 5, c'est ça ?
4, non ?
Non.
C'est 4 shekels.
Un shekel.
Un shekel c'est.
J'ai pas tout bon. Un shekel d'argent, un shekel d'or.
Un shekel, c'est 4 dinars d'argent.
Voilà. Mmh. Ou 5 dinars d'or.
Ouais.
Non.
Dinar d'or et
quand... Le Pidyon Aben, c'est 5 shekels, c'est ça ?
Voilà. Donc ça en fait, plus largement, pas que pour Pidyon Aben, on dit Pidyon Aben, mais ouais, pour toutes les sommes, si on suit cette logique, Pour toutes les sommes qui sont exprimées en shekel dans la Torah, il faut calculer qu'en fait, un shekel, en réalité, c'est pas 4 dinars d'argent, c'est 4 25e de dinars d'or. C'est ça la valeur réelle. Parce que la valeur réelle, elle se calculerait toujours en fonction de la monnaie étalon qui est l'or. Okay. Alors ensuite, par facilité de langage, plutôt que de dire 4 25e de dinars d'or, la Torah, elle s'est basée sur un taux fixe de 25 dinars d'argent pour un dinar d'or. Mais ça, c'est une convention. Mais ça ne veut pas dire que le shekel est indexé au cours du dinar d'argent. Le shekel, il est indexé au cours du dinar d'or. Ça ne bouge pas.
Ça, c'était valable à l'époque, quand ils ont écrit ça, quoi. Non ?
Enfin, c'est ce truc non, de justement, 25, voilà, justement, il dit, non, justement, les histoires de un dinar d'or, ça vaut 25 dinars d'argent, c'est pas une valeur de référence dans le monde des Chachamim.
Non.
C'est un mode de calcul pour pouvoir calculer la valeur réelle du shekel indiqué dans la Torah.
Oui, mais ça veut dire que c'est une valeur qui est valable, c'est pas forcément tout, ça sera pas toujours 25.
Mais justement, il te dit.
Mais donc ce 25, vu qu'il n'est pas tombé de nulle part, c'est le taux à leur époque où ils écrivent ça, non ?
Non, c'est le taux dans la Torah. Il te dit dans la Torah, c'est-à-dire, il te dit la valeur, on calcule la valeur de tout en fonction du dinar.
C'est la proportion qu'il y a dans la Torah, et donc du coup après.
Cette braïta-là, il te dit toute valeur se calcule en fonction de la valeur de référence qui est l'or. Et donc.
Mais
quand la Torah exprime des sommes précises, que ce soit en shekel ou en pruta, on a besoin d'un mode de calcul pour savoir à quoi ça correspond en valeur fixe en monnaie d'or. Donc c'est pour ça qu'on te donne ces valeurs-là. Ces valeurs-là, ce n'est pas des valeurs moyennes ou des valeurs conventionnelles à l'époque des Chachamim, c'est juste des tables de calcul pour connaître les valeurs. Comment est-ce qu'on calcule? Comment est-ce qu'on convertit de manière fixe et invariable les sommes qui sont données dans des monnaies bizarres dans la Torah en fonction de l'étalon or.
Mais qu'est-ce qui fait que la valeur change justement de dinars d'argent dans la Torah ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour que ça change ?
Alors justement, dans la Torah, ça ne bouge pas. Ouais. D'accord ? Et Inachinami, peut-être que ça correspond aux valeurs effectif qu'il y avait à l'époque de la Torah. Ensuite, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que des monnaies varient les unes par rapport aux autres ?
Ça dans la vie courante que ça change bien parce que voilà, peut-être que vous avez dit que ça n'a pas les plus chers, les produits les plus chers. Mais là, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce que c'est pareil ou c'est autre chose ?
Non, mais c'est là justement. On te dit ça bouge pas, ça bouge pas. C'est-à-dire que Pidyan Aben, c'est toujours 4/25 de dinars d'or. Ça bouge pas.
Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui change ?
Alors, ce qui change, c'est qu'effectivement, après. Quand moi, je vais aller aujourd'hui, là, en 2016, en France, je vais aller faire Pidyon Aben de mon fils, qui n'arrivera jamais, puisque j'ai une fille en premier, mais c'est ce que je vous souhaite. Quand vous irez faire le Pidyon Aben de votre fils, d'après cette braïta-là, on calculera le Pidyon Aben en fonction de la valeur de l'or. Et ensuite, on reconvertira cette valeur de l'or en, je sais pas, en euros ou un truc comme ça.
Ça veut dire que l'or peut changer, c'est ça ?
Non, justement, ça veut dire que finalement, tout bouge par rapport à tout. Mais d'après les Chachamim, ou en tout cas d'après cette Braïta, finalement, on a besoin de choisir un repère, et ce repère qui est choisi, c'est la valeur du dinar d'or. C'est ça, ce qu'on choisit comme point fixe. D'accord ? C'est comme en astronomie. En astronomie, tout bouge par rapport à tout. D'accord ? Il n'y a pas de point fixe dans l'univers. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu choisis comme point fixe pour calculer tes équations. Alors, si tu veux calculer le mouvement de la Lune, beaucoup plus simple de prendre la Terre comme point fixe. Oui. Parce que si tu veux ou les mouvements du Soleil, ça marche. Si tu veux calculer les mouvements de Pluton ou les mouvements de Aldébaran, tu as besoin de choisir un autre point fixe. Oui. Alors là, c'est pareil. Tout bouge par rapport à tout. Et finalement, les Chachamim nous disent tout bouge par rapport à tout en termes de phénomène, mais la Torah nous indique que la valeur de référence, en tout cas pour ce Tana, la valeur de référence, qui est le véritable point immobile, ce par rapport à quoi se calculent toutes les autres valeurs, c'est le dinar d'or.
Alors, pourquoi dans ce cas, le prix du Pidyon Aben change ?
Non, il ne change pas. Il est toujours 4/25e du dinar d'or.
Vous avez dit qu'il y avait un truc qui changeait, non ?
Oui, parce que Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de dinar d'or.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et de toute façon, c'est 4/25 du dinar d'or.
4/5.
4,25.
Oui, 4/5. C'est un shekel qui est 4/25.
Le pinot de graines, c'est 4/25.
Voilà, c'est vrai que ça. C'est 4/5, ok. Donc finalement, même si tu vas voir le Cohen avec un dinar d'or, il faut qu'il te rende de la monnaie. Alors c'est sur le calcul du rendu de monnaie que ça va changer, en fonction du cours des autres monnaies par rapport au dinar d'or.
D'accord. Ah oui, donc il y a une interdépendance, quoi, c'est ça?
Il y a une interdépendance, mais on choisit comme point fixe le dinar d'or.
Ouais, parce qu'il y a le dinar d'or d'un côté, les monnaies, le dinar d'argent après,
là, le voilà, et ensuite le hissar et la prouta, etc. Ok. Bon, on s'arrête là. La prochaine fois, on reprend ce passage-là, qui est complexe, qui est essentiel. Tout est essentiel ici, en particulier. De toute façon, c'est classique. C'est le début de Pérec.
Ça annonce peut-être la suite.
C'est-à-dire que c'est non, ça a l'air décourageant parce que le début d'une Maseret est toujours beaucoup plus compliqué que la suite. Et le début de chaque Pérec est toujours beaucoup plus compliqué que la suite. Mais c'est normal parce que contrairement à ce que pourrait laisser penser une lecture superficielle, ce n'est pas mis dans le désordre et ce n'est pas fait pour embêter les gens. C'est qu'au début de chaque partie, c'est vraiment les fondamentaux qui sont posés, les définitions essentielles.
On peut dire que c'est tout en vrac, quoi.
C'est pas en vrac. C'est que on te pose au début les choses les plus essentielles qu'on te définit. Voilà. C'est quoi une monnaie de référence? C'est quoi la valorisation d'une monnaie par rapport à une autre? C'est quoi une transaction financière, etc.
Oui, non, mais je dis en vrac dans le sens où c'est tout en bloc, quoi.
Oui, parce que tout ça se tient. Ouais. Tout ça se tient. C'est un réseau de concepts. Alors, le travail, c'est de démêler tout ça. Mais forcément, c'est emmêlé au début. Donc on essaie de démêler, on tire un fil. Okay, donc on reprendra cette sougia-là. Et on fera la marloquette Rashi Tosfot. Et les Tosfot en particulier sont très instructifs là-dessus. Ok. Merci messieurs. Et donc Bezrat Hashem, même jour, même heure, semaine prochaine. Je tiens au courant. Ouais, une fois par semaine.